Pour ce 49e épisode, nous allons parler de la théorie monétaire moderne, qui est un concept macroéconomique qui devient de plus en plus populaire ces temps-ci. Je vais donc partager avec vous quelques notions économiques de base, définir le concept des MMT et vous parler des problèmes de cette théorie. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast à Vraie Valeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet plutôt macroéconomique. Peut-être que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais je trouvais intéressant de vous parler d'une théorie qui se fait beaucoup entendre ces temps-ci, qui est la théorie monétaire moderne, ou le MMT. Je vais vous parler en détail c'est quoi exactement que veut dire cette théorie-là. Mais pour commencer, ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances en macroéconomie, je voulais partager avec vous deux concepts de base qui servent à contrôler l'économie et à viser un taux d'inflation d'environ 2% par année. La première politique, c'est la politique budgétaire et c'est une politique qui est utilisée par le gouvernement pour viser une croissance du PIB. Puis le gouvernement a deux outils pour essayer de faire croître le PIB, qui est soit d'augmenter ou de diminuer les dépenses et de soit augmenter ou diminuer le taux d'imposition des contribuables. Donc, si le gouvernement augmente les dépenses, donc ça va faire augmenter les investissements dans différents secteurs. Par exemple, il investit dans l'éducation. Mais ça va créer des emplois, ça va créer des meilleurs emplois et ça va stimuler l'ensemble de l'économie en général. C'est la même chose pour l'imposition. Si le gouvernement diminue les impôts, bien, ça va faire augmenter les revenus des contribuables et ça va faire augmenter leur consommation qui vont améliorer, qui vont stimuler l'économie plutôt. Maintenant, le deuxième moyen pour contrôler l'inflation, c'est la politique monétaire qui est appliquée par la Banque du Canada. Donc, encore une fois, il y a deux outils pour contrôler, soit les taux d'intérêt et la masse monétaire. Donc, si on diminue les taux d'intérêt, bien, ça va encourager les gens à emprunter vu que ça coûte moins cher à avoir à se procurer une source d'argent. Et ça va faire augmenter la consommation et donc stimuler l'économie. Si on augmente la masse monétaire, donc la quantité d'argent dans l'économie, bien, ça va faire diminuer les taux d'intérêt. Vu qu'il y a plus d'argent de disponible, bien, ça diminue les taux d'intérêt. Donc, les gens peuvent emprunter plus facilement. Et encore une fois, ça va stimuler l'économie. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ces outils-là pour contrôler l'inflation, pour ne pas que la valeur du dollar canadien, par exemple, diminue. Donc, on essaye tout le temps de soit garder une valeur stable ou même de la faire augmenter, mais il ne faut pas qu'elle diminue, sinon là, on a un plus haut taux d'inflation. Ici, je reviens sur la politique budgétaire, donc avec les outils de dépenses et d'imposition. Quand le gouvernement augmente ses dépenses, bien, ça, bien sûr, ça va faire augmenter la dette du pays. Puis, pour financer la dette, bien, le gouvernement va soit émettre des obligations, il va peut-être émettre des bons du Trésor ou des titres d'État. Et ça, c'est, dans le fond, nous qui achètons ces titres-là. Ça peut être des fonds de placement qui achètent ça. Et c'est vraiment, on achète de la dette, puis on espère avoir un taux d'intérêt, de recevoir de l'intérêt là-dessus. Et en même temps, ça garantit en quelque sorte notre capital. Maintenant, regardons plus en détail la théorie monétaire moderne, qui est une toute autre méthode pour contrôler l'économie. Donc, ceux qui croient au MMT, ils disent que les pays qui ont leur propre devise pourraient simplement imprimer de l'argent pour financer leurs dettes. Ils pensent donc qu'ils pourraient avoir une dette illimitée, sans faire augmenter l'inflation ou sans faire diminuer la valeur de la monnaie. Ça n'aurait donc aucun impact d'imprimer constamment de l'argent. Et ça va permettre d'investir dans l'éducation, dans les soins de santé, dans l'énergie renouvelable, de faire plusieurs investissements logiques pour créer des emplois et stimuler l'économie. Et si l'inflation augmente, ben ils auront juste à augmenter les impôts, vu que le revenu général va augmenter, donc le revenu de la population, ben ça va être possible d'augmenter les impôts, puis ça va faire réduire la masse monétaire dans l'économie et ainsi réduire l'inflation qui va redevenir à zéro. Et s'il n'y a pas d'inflation, ben il n'y a pas de taux d'intérêt. Là, ça a l'air super beau comme théorie, mais il y a beaucoup de problèmes reliés à ça, surtout que dans un système capitaliste, il y a des équilibres partout. Donc, tout redevient à l'équilibre tout le temps. Donc, le premier problème que je vois avec cette théorie-là, c'est que si on donne l'argent à tous, tout le monde va pouvoir acheter plus. Bien sûr, si vous recevez, disons 10 000 de plus l'année prochaine, c'est clair que vous allez utiliser ça peut-être pour vous acheter une nouvelle télévision, vous acheter peut-être même une nouvelle voiture. Donc, ça va augmenter la consommation générale de la population, ce qui va faire augmenter, bien sûr, la demande. Et si on regarde la courbe de l'offre et la demande, si la demande, elle augmente, on a une réduction de l'offre. Donc, les compagnies, vu qu'ils vendent plus, ils ont moins de produits à offrir. Donc, ça va nécessairement faire augmenter les prix des biens et services. Donc, ça va directement mener à une hausse de l'inflation. Donc, selon les MMT, on a une hausse de l'inflation, on a juste à augmenter les impôts, ce qui va faire réduire la consommation et donc réduire l'inflation. Mais si on redevient à un niveau d'inflation nul, mais que les revenus augmentent encore, on est comme en cercle vicieux et ils devront toujours augmenter les impôts pour refaire réduire l'inflation. Donc, à un moment donné, on dirait que c'est comme un cercle sans fin. Un autre problème de la théorie MMT, c'est qu'on dirait que c'est vraiment une théorie pour gagner des votes en politique. Parce qu'on voit vraiment que la théorie veut faire une redistribution de la richesse, donc augmenter les impôts pour redonner à tous. Et ils vont même jusqu'à dire que les riches ont trop d'argent et qu'ils doivent vraiment augmenter les impôts pour redonner aux autres et aplatir la courbe de la distribution des richesses. Mais si on peut imprimer de l'argent comme on veut, pourquoi on voudrait juste pas redonner aux pauvres? Pourquoi on fait juste pas distribuer de l'argent aux plus pauvres, leur donner des emplois, leur donner de l'argent, plutôt que de faire une redistribution des richesses? Donc ça, c'est vraiment un point de vue politique, simplement pour gagner des votes au niveau de la population plus démunie, qui ont plus besoin d'argent. Donc ça serait tellement plus logique de donner aux pauvres que de prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres, quand on peut s'endetter à l'infini. Un autre problème maintenant par rapport à la dette que tout ça crée, si on revient à ce que j'ai dit un peu plus tôt, comme quand j'ai dit que le gouvernement finance sa dette avec des émissions de titres, d'obligations, de bons du trésor, là, si on imprime de l'argent continuellement, on a une dette qui augmente sans fin. Et s'il n'y a pas de taux d'intérêt là-dessus, bien sûr, s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de taux d'intérêt, ça veut dire que les obligations ne vont rien rapporter. Il n'y aura aucun intérêt sur les obligations. Donc, au final, ça va être les épargnants qui vont payer pour la dette. Et au final, ils vont peut-être avoir moins de revenus vu qu'ils vont acheter des titres et des obligations qui ne rapportent rien. La théorie MMT est comme ancrée dans le passé et aussi le présent, parce que ça se passe encore présentement, où que les taux d'intérêt sont vraiment bas et qu'on s'endette continuellement pour soutenir l'économie. Mais comme j'ai dit, tout a un équilibre dans l'économie et c'est certain qu'il va se produire quelque chose comme une récession à un moment donné. Parce que là, les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent dans l'économie pour la soutenir et éviter les récessions. Et comme on a vu en mars 2020, ils ont tellement injecté d'argent que ça l'a évité une récession. Ça l'a tout de suite remonté. Et maintenant, vu qu'ils ont vu qu'ils étaient capables de faire ça, on dirait que les gouvernements, ils font juste s'endetter encore plus. Puis ils profitent, bien sûr, des taux d'intérêt qui sont super bas pour s'endetter et soutenir l'économie pour éviter les récessions. Mais Ça ne pourra pas durer pour toujours. L'inflation va remonter, les taux d'intérêt vont monter. Et si les taux d'intérêt montent, ben là, la dette, elle va devenir vraiment énorme et ça va être super difficile de rembourser ça. Un dernier problème que je voulais partager avec vous, c'est que ceux qui soutiennent la théorie MMT disent qu'ils, dans le fond, qu'ils n'ont pas besoin des impôts. Ils peuvent imprimer de l'argent comme ils veulent. Donc, ils n'ont pas besoin de prendre l'argent, des contribuables. Mais ils font ça simplement pour contrôler l'économie, pour contrôler l'inflation et pour garder la confiance dans le dollar. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a une obligation envers le gouvernement. Donc, on est obligé de payer des impôts, sinon on va aller en prison. Donc, si on doit payer des impôts, bien, on doit aller travailler. Et si on va travailler, on gagne de l'argent, on paye des impôts, donc on va se mettre à acheter aussi. Donc, c'est comme ça qu'ils gardent notre confiance dans la monnaie. Mais le problème, c'est que si plus personne a confiance dans cette monnaie-là, tout le monde se rend compte que ça ne vaut rien. Mais là, il va avoir une hyperinflation, comme qui est arrivé au Venezuela. Et ça, je vous invite à l'écouter, l'épisode numéro 15 qui s'intitule La dette, une bombe à retardement, qui avec un invité que j'ai parlé de la dette américaine et de qu'est-ce qui arrive dans le temps d'une hyperinflation. Mais en gros, si l'inflation augmente, ben, les taux d'intérêt augmentent. Et vu qu'on est super endetté, si les taux d'intérêt augmentent sur cette dette-là, ben c'est clair qu'au final, on va faire faillite. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé des problèmes de cette théorie-là, parce que selon mes recherches et mes connaissances, je penche plus du côté que ça serait peut-être une mauvaise chose à instaurer dans l'économie. Mais comme je répète souvent dans mes épisodes, dans le fond, il faut toujours analyser les deux côtés d'un sujet ou d'une compagnie pour voir vraiment les différentes opinions et se faire une bonne idée sur le sujet. Et moi, présentement, mon biais, c'est peut-être d'être trop habitué aux théories économiques qui sont en place présentement. Donc, c'est celles que je vous ai parlé au début de l'épisode, soit la politique monétaire et la politique budgétaire. Par contre, ça se peut que le MMT, ça fonctionne. Ça se peut très bien que ce soit une super bonne théorie macroéconomique et que ça fonctionne. Et si ça marche, si, mettons, on réussit à la mettre en place et que ça fonctionne, ben, ça serait super bon pour faire diminuer la pauvreté, pour augmenter le revenu des ménages. Ça pourrait améliorer le système de l'éducation, le système de la santé. Imaginez d'aller à l'hôpital, puis ça vous prend juste 10 minutes d'attente, puis vous voyez tout de suite un médecin. Ça serait vraiment super. Aussi, ça serait bon au niveau environnemental. Ça faciliterait la transition écologique. En investissant dans les énergies renouvelables, dans l'énergie verte, on deviendrait plus facilement carbone neutre. Ça pourrait aussi permettre de créer beaucoup d'emplois, vu que le gouvernement investit énormément pour développer des nouvelles infrastructures, investir dans des nouveaux projets. Bien, ça crée beaucoup d'emplois. Donc, encore une fois, c'est une super bonne chose. Puis ça permettrait, en général, de moderniser notre économie, qui est quand même dans un système qui s'en vient vieux. Il a fait ses preuves, mais c'est quand même un système très conservateur. Donc, je suis pas nécessairement contre cette théorie-là, mais je trouve que ça serait très difficile à faire la transition vers cette nouvelle politique économique, surtout que là, on est très ancré dans celles qui sont déjà en place, mais ça pourrait être possible et si ça marche, ben, ça serait une bonne chose pour plusieurs personnes. Je vous ai mis dans la description un lien d'une vidéo donc dans la vidéo, vous allez voir, c'est Stéphanie Kelton qui est économiste et qui explique le MMT. Et elle a écrit un livre à ce sujet-là. Et il va avoir le lien d'une deuxième vidéo qui est une critique de son livre. Donc c'est comme je vous ai mis une vidéo pour, une vidéo contre. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être voir les deux côtés de la chose, vous aussi vous faire une idée à ce sujet-là et voir selon vous si ça serait une solution possible. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'un sujet macroéconomique va vous avoir intéressé. C'est pas nécessairement quelque chose que je regarde quand je veux investir. C'est simplement par curiosité que je vais regarder ça. C'est toujours bon d'avoir un œil là-dessus, mais si on passe trop de temps à étudier la macroéconomie, on va plus avoir assez de temps pour étudier les compagnies. Et vraiment, ça va être important de choisir des bonnes compagnies pour espérer des bons rendements. Et ici, je veux faire un petit message pour les obligations. Comme j'ai dit, en ce moment, la dette, elle augmente. Le gouvernement émet des titres, des obligations. Et les taux d'intérêt sont super bas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui achètent ces obligations-là, même si les taux d'intérêt rapportent vraiment pas beaucoup, voire en dessous de l'inflation. Et juste parce qu'ils pensent que leur capital va être garanti. Donc, que l'argent qu'ils mettent va leur revenir. Donc, oui, c'est sûr que votre 100$ que vous avez mis va vous revenir. Les obligations du gouvernement, généralement, sont bien garanties. Mais même si vous retrouvez avec le même argent, mais qu'il y a eu de l'inflation, donc ça veut dire que l'argent que vous avez vaut moins. Donc, c'est pour ça que ça va être important de choisir des bons titres en bourse, des compagnies solides pour espérer de faire un rendement supérieur au taux d'inflation pour s'assurer justement de faire croître son argent et de ne pas en fait posséder moins qu'il y a 5 ans. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Vous pouvez aussi partager dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les sources de l'émission d'aujourd'hui dans la page web. Le lien est dans la description. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.